Lizzie présente Coup de grâce de Daniel Steele. Lu par Sylvain Agaès. Cher lecteur, ce fut un roman passionnant à écrire, car il a trait aux choses de la vie. Les belles-mères maléfiques ont mauvaise presse depuis toujours. On se souvient de Blanche-Neige, et il y en a eu bien d'autres avant. Mais qu'en est-il des belles-filles maléfiques? Plusieurs fois cette année, on m'a raconté des histoires terrifiantes au sujet de merveilleuses épouses s'étant toujours montrées bienveillantes à l'égard des enfants de leur mari, qui ont été privées de tout par ces mêmes enfants, devenus adultes à la mort de leur père. Du jour au lendemain, une femme qui vivait protégée comme dans un cocon peut se retrouver sans rien, alors qu'elle n'a plus travaillé depuis des années, sans revenu propre, avec à peine de quoi survivre. C'est un véritable coup de grâce et un éveil brutal qui demande beaucoup de bravoure, de force, d'énergie et de ressources pour reconstruire une vie et se réinventer. Perdre, à la mort de l'être aimé, son rôle et son statut d'épouse, avec toute la stabilité qui va de pair, est un coup du sort inimaginable. Un autre thème qui m'intriguait est celui des innocents qui se retrouvent du mauvais côté de la loi à cause des actions de leurs associés, de leurs patrons, ou en raison de leur naïveté et de prise de risques inconsidérées. Que se passe-t-il lorsqu'on est privé de tout, et que notre réputation, jusque-là immaculée, est soudain entachée? Qu'advient-il de l'innocente injustement accusée d'un crime qui atterrit en prison? Ces histoires arrivent parfois. Dans de telles circonstances, reconstruire sa vie n'est pas une mince affaire lorsque tous les repères disparaissent, que l'être aimé n'est plus là, que des personnes malveillantes en profitent, que les circonstances jouent en notre défaveur. Quand la vie se referme sur nous et qu'on se retrouve dans un monde inconnu, privé de bouclier, pas à pas, jour après jour, il faut alors tout reconstruire à partir de rien, créer une nouvelle vie et un nouveau monde et avancer avec courage et intégrité. Quand tout s'effondre, quand le coup de grâce s'abat après une vie dorée et des années de confort disparues en un claquement de doigts, que reste-t-il? C'est à ce moment que l'on découvre qui l'on est, ce qui compte vraiment, et cette force intérieure dont on ne soupçonnait pas l'existence. J'espère que vous aimerez lire cette histoire autant que j'ai aimé l'écrire. Amitié. Daniel Steele. À mes merveilleux enfants, Bitty, Trevor, Todd, Nick, Samantha, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Puissent vos chutes être aussi douces que possible, et puissiez-vous vous en relever très vite, en ayant appris une nouvelle leçon. Peu importe les apparences, rien n'est jamais fini. Je vous souhaite de toujours connaître le bonheur des nouveaux départs. Je vous aime de tout mon cœur. À jamais, maman. Daniel Steele. Le temps viendra où vous croirez que tout est fini. C'est alors que tout commencera. Louis L'Amour. Chapitre 1. Le regard perdu sur la pluie qui s'abattait en cette journée d'été, Sydney Wells avait l'impression de couler en eau profonde. Elle venait de passer 8 jours en état de choc. Depuis que son mari était sorti faire quelques courses à moto. Passionné de voitures de sport et autres bolides, il conduisait ce jour-là sa précieuse Ducati, le joyau de sa collection vintage. Ce devait être un tour rapide, sur une petite route peu fréquentée du Connecticut, mais 4 heures plus tard, il n'était toujours pas rentré. Sur le moment, elle avait supposé qu'il avait finalement décidé de retrouver un ami ou qu'il avait pensé à d'autres courses, quitte à être sorti puisqu'il faisait si beau. Quand elle l'avait appelé sur son portable, il n'avait pas décroché. La patrouille routière avait parlé d'une portion de route glissante et de gravier. Andrew portait un casque, mais il n'avait pas attaché la lanière, pas pour un trajet aussi court. La moto avait dérapé, le casque avait volé. Il était mort sur le coup. Il avait 56 ans. Sydney se retrouvait donc veuve à 49 ans. Toute cette histoire était surréaliste. Plus rien ne lui semblait familier, ni même possible. À la tête d'un fonds d'investissement hérité de son père, Andrew était un époux fiable, père de jumelles, à présent trentenaire, issu d'une première union, et beau-père des filles de Sydney. Tous deux formaient le couple parfait, qu'elle croyait destiné à vieillir heureux. Et pourtant, 16 ans de mariage étaient passés si vite, à l'échelle d'une vie. Elle avait surmonté les obsèques entourées de ses filles, Sabrina et Sophie. De l'autre côté de l'allée centrale, le banc était occupé par les jumelles et leur mère. Geoff, le mari de Kelly, menait le clan. Le couple vivait dans la région, et ils avaient laissé leur fils de 3 et 5 ans chez eux. Kira, quant à elle, habitait à New York, avec son petit ami du moment, dans une belle maison de ville au cœur du West Village, que son père lui avait offerte pour ses 25 ans. Par souci d'équité, il avait au même moment acheté à Kelly la demeure de ses rêves, dans le Connecticut. À l'époque, cette dernière venait de se marier, voulait fonder une famille et préférait la vie à la campagne. Mais depuis la naissance de son deuxième enfant, elle commençait à s'y trouver à l'étroit et parlait de déménager pour plus grand, avec le soutien financier de son père, bien entendu. Marjorie, la mère des jumelles, s'était installée à Los Angeles 18 ans plus tôt, après son divorce. Andrew avait rencontré Sydney au bout d'un an de célibat. Cette dernière n'avait joué aucun rôle dans la séparation. Ce premier mariage était simplement arrivé à son terme. Perpétuellement insatisfaite, Marjorie exprimait sa frustration en la faisant subir à son entourage, jusqu'au jour où Andrew avait fini par en avoir assez. À l'issue du divorce, Marjorie avait reçu un dédommagement financier colossal. Andrew était de nature généreuse, et ce, même envers une ex-femme amère et hargneuse. La colère et la jalousie de Marjorie avaient trouvé une cible toute naturelle en Sydney, et elle avait réussi à liguer les jumelles contre elle. Empoisonnées par le venin de leur mère, même sans raison valable, les adolescentes de 17 ans avaient détesté Sydney au premier regard. La jolie blonde divorcée s'était pliée en 4 pour conquérir ses belles filles, mais la malveillance et la cruauté dirigées à la fois vers elle et vers ses enfants de 9 et 11 ans avaient fini par la décourager. Tant que la fureur de Marjorie alimentait leur haine, il n'y avait rien que Sydney puisse faire. Aussi avait-elle baissé les bras. Durant la semaine qui avait suivi l'accident, les jumelles l'avaient sciemment ignorée, comme pour la blâmer de la mort de leur père. Pourtant, Sydney, Sophie et Sabrina étaient, elles aussi, anéanties par le deuil. Au lendemain des funérailles, l'avocat d'Andrew, Jesse Barkley, était passé voir Sydney. Il fallait qu'elle sache. 16 ans avaient filé en un clin d'œil, et Andrew n'avait jamais retouché le testament rédigé avant leur rencontre. Jesse Barkley avait l'air embarrassé en confiant qu'il lui avait pourtant rappelé de modifier le document après son remariage. Andrew avait toujours eu l'intention de le faire, mais, faute de temps, il n'avait cessé de reporter la corvée, pensant avoir l'éternité devant lui. À un si jeune âge, pourquoi penser à une maladie? Et comment prévoir un accident? Le couple avait signé un contrat prénuptial, établissant un régime de séparation des biens, avec l'idée de l'assouplir au bout de quelques années. Andrew n'avait que 40 ans à l'époque, et Sydney à peine la trentaine. Dans la fleur de l'âge, Andrew était un homme plein de vie, doublé d'un mari aimant. Jamais il n'avait cherché à placer Sydney dans cette situation. La savoir ainsi démunie lui aurait brisé le cœur. Son seul tort avait été un simple oubli, celui de mettre à jour ses papiers. Car Andrew pensait avant tout à la vie, pas à la mort. Le dernier testament en vigueur léguait donc toute sa fortune à ses deux filles. À l'instant où Andrew était mort, les jumelles étaient devenues propriétaires de la maison dans laquelle le couple avait vécu. Dès qu'elles furent informées de la situation, en même temps que Sydney, elles firent savoir par le biais de leur avoué qu'elles exigeaient son départ des lieux dans les 30 jours, le minimum légal. Il lui en restait 22.